enregistrer, c'est en ligne. Il faut avoir un code ou quelque chose.
Ça, alors je vais, j'ai pas eu le temps du tout de m'en occuper encore. D'accord. C'est stocké. J'ai pas du tout procédé aux mises en ligne. Dès que ce sera fait, effectivement, je vous enverrai un lien avec un code et vous pourrez réenregistrer, réécouter effectivement toutes les conférences.
D'accord.
Tout à fait.
Podcast. Ouais, ouais. Les mises en ligne sont publiques, grand public, alors, ou seulement réservées?
Un peu comme disait François-Louis sur le tweet, ça reste réservé à nos auditeurs. Hein. Ouais, ouais.
Et s'il y a des choses que vous ne voulez pas qu'ils soient enregistrées, on appuie sur pause et on l'a déjà fait pour notre conférence. Donc
d'accord.
D'accord. Un petit tour rapide pour le voyage. J'avais arrêté de donner quelques informations complémentaires. Savoir si vous voulez une chambre individuelle, si vous voulez prendre une assurance annulation, et si jamais vous prenez un bagage en dessous, c'est 30 euros.
Pour tout ça?
Comment?
Pour la chambre individuelle, le bagage en dessous,
c'est
à volonté.
La chambre individuelle, c'est 95 euros. Et l'assurance annulation, c'est 23 euros.
D'accord.
Donc voilà, donc ça va nous préciser assez rapidement. Je vais vous envoyer un petit mail demain matin pour que l'agence se déroule rapidement.
Juste, s'il n'y a pas chambre individuelle, c'est l'option autre.
C'est des chambres avec deux personnes.
Tirage au sort. Fait.
Non, on essaye.
Ah, oui, Guillaume, un point, pardonnez-moi, évident, j'ai oublié de rappeler. Pardon, monsieur Cédric. Donc, ma formulation était peut-être un peu ambiguë pour ce qui concerne les jeudis, la réunion des commissions. Donc, c'est bien annulé. Il n'y a pas de réunion. Il n'y a pas de.
Le lancement des groupes de travail.
Je dis, on soirée,
ça sera en janvier, non?
Ce sera en janvier.
Ce sera en janvier.
On en parlera dimanche avec vous tranquillement pour caler ça. Pardon. Ouais.
Et pendant qu'on est dans le tour operating, sur Rome, on nous a demandé si on voulait rester le dimanche, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et il n'y a pas d'option chambre, soute.
J'aime
pas la pizza.
Il y a un supplément pour la journée supplémentaire.
Oui.
Voilà.
Quand on met le reste, il n'y a pas d'option.
Vous pouvez ne pas prendre la chambre si vous avez déjà un hébergement, mais ça, vous devez sachez assez rapidement.
C'est chambre simple. On peut avoir un bagage en soute.
Voilà, moyennant un certain nombre de compléments.
D'accord, pour Rome.
Oui.
D'accord.
C'est que le bagage en soute, c'est en plus.
D'accord.
C'est pas compris dans le tarif qu'on veut pas dans ce qu'on a payé. Donc ça, c'est des frais en plus si vous voulez souscrire.
Et sans obligatoire.
Oui.
D'accord.
Voilà. Mais je vais vous envoyer un petit mail demain matin pour repréciser.
À la fois Rome et Jérusalem.
Alors ça sera pareil. Oui. Alors les coûts sont pas les mêmes pour le.
Pour la chambre. Parce que Rome, c'est bientôt.
C'est au mois de février. C'est du 5 au 8.
Vous avez déjà pour Jérusalem?
Jérusalem, c'est du. C'est en mai. C'est du 5. Du 11 au.
Été des 15, non?
11 au 15.
C'est du 15 au 19 mai.
15 au 19, oui, c'est ça.
Et alors, je vais corriger dans le programme parce que c'est ce que j'ai remarqué.
Oui, c'était avril, vous savez, mais c'est que ça tourne la page juive, ça fait
ça. C'est bien, mais. C'est parce que vous voyez la semaine dernière, c'est un peu plus.
Ah oui?
Bon, on peut démarrer.
Pardon, sans question.
Merci, madame. Voilà.
Pardon, mais vous mettre dans ces.
Non, c'est important d'en parler.
Voilà, bonsoir à tous. Voilà, Michel Savoie, merci d'accepter d'intervenir pour l'Institut des hauts études du monde religieux. Donc, vous êtes professeur de théologie des dogmes, donc à l'Institut Saint-Serge, ici même. Et vous êtes professeur associé donc au Centre d'histoire et civilisation de Byzance, donc au Collège de France, en lien avec le CNRS. Vous avez un parcours relativement atypique, dans la mesure où vous avez commencé par des études d'ingénieur, et puis ensuite vous êtes allé vers le grec, et ensuite vous êtes allé vers la théologie. Vous avez passé vous avez soutenu votre thèse en fait avec trois jurys de trois universités, donc l'Institut Saint-Serge, Paris 4 Sorbonne, ainsi que l'Institut catholique de Paris. Et donc du coup, vous avez un triple doctorat à l'issue de votre soutenance. Vous êtes responsable d'une revue de théologie orthodoxe qui s'appelle Contact. et vous êtes aussi investi dans un comité donc qui s'appelle le comité mixte de dialogue théologique catholique orthodoxe en France.
C'est le dialogue officiel. Hein,
voilà, qui est une instance donc, de dialogue officiel entre les églises chrétiennes, là particulièrement donc orthodoxe catholique. Et vous êtes aussi investi donc, à l'Institut catholique de Paris, donc à l'Institut supérieur d'études œcuméniques, qui est un institut à l'intérieur de l'Institut catholique de Paris, donc dans la faculté de théologie. Voilà, qui était d'ailleurs présidé par un pasteur jusqu'à très peu, quelques...
Pasteur Pérez.
Mmh. Voilà. Jusqu'à il y a très peu. Vous avez fait votre thèse sur une grande figure qui est peu connue en France, du XIIIe siècle de Constantinople, hein, autour de Constantinople, donc qui s'appelle Nicéphore Blanides, voilà, qui est qu'on peut comparer d'une certaine manière, toutes les comparaisons ne sont pas raison, mais qu'on pourrait comparer à Saint Bonaventure ou à Saint Thomas d'Aquin pour les orthodoxes de cet hémisphère-là. Oui. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc vous prenez une parole après notamment l'intervention du Père Sandrez, donc du Collège des Bernardins, qui lui est intervenu sur le développement donc, des premiers temps du dogme catholique, du dogme catholique. Voilà. Donc catholique. Du coup, ce que vous apportez est complémentaire, parce que vous parlez des choses vues de l'orthodoxie.
C'est ça, de l'orthodoxie. Bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter... un petit peu un panorama sur les fondamentaux de l'orthodoxie. Vous avez le plan de mon exposé,
oui.
Si vous voulez. Est-ce qu'il a circulé, vous l'avez ?
Oui, je l'ai.
D'accord.
Oui.
Et comme il m'a été demandé, en fait, je vais insister davantage sur les aspects doctrinaux, mais également historiques, parce qu'on connaît mal les aspects historiques et encore moins bien les aspects doctrinaux. Pour ce qui concerne le christianisme oriental. Donc j'ai un plan, vous voyez, en 5 parties. Je vais commencer tout de suite en soulignant que l'Église orthodoxe, avec le catholicisme romain et les églises issues de la Réforme, représente aujourd'hui une des 3 expressions majeures du christianisme. Comme le catholicisme, elle s'enracine dans le christianisme originel. Là, je crois qu'il faut faire un petit effort lorsqu'on est un occidental, et notamment catholique, pour ne pas regarder, si vous voulez, le christianisme oriental en perspective occidentale, mais essayer de se mettre à la place des orthodoxes. C'est-à-dire, ils ne considèrent pas qu'ils sont orthodoxes depuis 1054, depuis qu'il y a le schisme, entre guillemets, ni depuis les croisades qui a accentué encore la séparation. Ils ont le sentiment d'une continuité ininterrompue depuis le christianisme apostolique. Ça, je crois que c'est important de le souligner. Donc, fondamentalement, si vous voulez, il y a cet enracinement dans le christianisme originel. Il y a à la fois ce sens de l'arché du christianisme, de l'enracinement avec l'époque... du judaïsme, je dirais qu'il y a beaucoup de points communs entre le judaïsme et le christianisme orthodoxe, notamment au plan liturgique, et puis d'autre part ce sens également de l'eschaton, c'est-à-dire ce sens de l'ultime, de la venue des derniers temps, qui a marqué finalement la venue du Christ, la venue de Jésus reconnu comme Christ. Donc les temps sont arrivés, les derniers temps sont arrivés, c'est ce qui nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres. Et cela, on le retrouve en permanence dans la sensibilité orthodoxe et fondamentalement dans la liturgie. Ça, je pense que ça doit être souligné, c'est-à-dire toujours cette dimension prophétique, beaucoup plus qu'institutionnelle. Appelée autrefois l'Église catholique orientale, c'est son nom traditionnel, l'Église orthodoxe s'est développée surtout au Proche-Orient, comme vous le savez, et dans l'Europe de l'Est et du Sud-Est. Pourtant, des missions vigoureuses l'ont implantée jusqu'au Nord-Pacifique et jusqu'à l'Afrique noire, donc à partir, je dirais en gros, du XVIe-XVIIe siècle, pour ce qui est de la Russie, et du XXe siècle, pour ce qui est de l'Afrique. De plus, les grandes migrations économiques et politiques du XXe siècle ont rendu l'orthodoxie présente désormais sur toute la planète, Occident compris. Il est difficile de définir l'orthodoxie dans une optique étroitement confessionnelle. Rappelons que durant le premier millénaire, l'Église catholique d'Orient, comme elle s'auto-désignait, était en communion avec l'Église romaine et que depuis 1054 et surtout après la quatrième croisade en 1204 qui a vu la prise de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, par les croisés, hein, pas par les Turcs mais par les croisés, il y a eu vraiment une rupture forte avec le christianisme occidental. Et pourtant, malgré ce schisme, malgré cette rupture, il y a toujours eu des relations entre ces églises. Elles n'ont jamais été totalement coupées. Ça, c'est important aussi, je pense, de souligner. L'appartenance à l'orthodoxie ne se définit pas à travers une croyance ni une culture, mais je dirais dans une expérience de partage de la foi chrétienne, expérimentée dans l'Écriture et les sacrements, en référence directe aux apôtres et aux pères. Même au plus fort des tensions entre chrétiens, l'Église orthodoxe ne s'est jamais définie vis-à-vis d'une autre Église. Hein? Par exemple, on ne peut pas comparer l'orthodoxie au protestantisme. Ce n'est pas une réaction à quelque chose. Comme le soulignait le premier doyen de cet institut de théologie orthodoxe qui fut fondé en 1925 par l'émigration russe, donc rejeté de Russie par la révolution bolchevique, le premier doyen était un grand théologien qui s'appelait le père Serge Bulgakov, du même nom que le fameux écrivain. Il est mort en 1944. Il a laissé beaucoup d'ouvrages. Il a eu tout un parcours. Au départ, c'était un intellectuel marxiste qui a fait tout un chemin par l'idéalisme en Russie et qui finalement s'est converti et a été jeté sur un bateau, le bateau des intellectuels, en 1922 avec beaucoup de gens donc rejetés par Lénine et qui s'est retrouvé ici et qui a beaucoup écrit du point de vue théologique et spirituel. Et dans son livre synthétique « L'orthodoxie », il écrit « L'orthodoxie est l'Église du Christ sur la terre. L'Église du Christ n'est pas une institution, mais une vie nouvelle avec le Christ et en Christ, mue par le Saint-Esprit. » Je cite, si vous voulez, cette définition, contre toute perspective de type sociologique, pour souligner la dimension prophétique d'un certain nombre de théologiens orthodoxes tels que Bulgakov, pour souligner que cette définition inclusive, ouverte, témoigne d'un sens que je qualifierais de catholique de l'orthodoxie, et en même temps de la porosité des barrières confessionnelles interchrétiennes. Et beaucoup de ce que vous entendrez de l'orthodoxie, bien entendu, vaut pour les autres traditions chrétiennes. Alors d'un point de vue, maintenant je reviens à un point de vue, je dirais un peu davantage géopolitique et sociologique, l'orthodoxie se présente comme la communion entre 14 églises territoriales qui s'auto-administrent et qui sont donc appelées de ce fait autocéphales. C'est-à-dire que chacune de ces églises est autocéphale, c'est-à-dire qu'elle est auto-administrée par un synode d'évêques ayant à sa tête un primat. Ce primat a parfois le titre d'archevêque, parfois le titre de patriarche. Ça, c'est un détail. Et ces 14 églises, réparties dans le monde, sont en communion dans la foi et les sacrements entre elles. Elles partagent la même tradition. Il s'agit de la tradition théologique byzantine. Et avec les grandes migrations du XIXe siècle et surtout du XXe siècle, je l'ai dit tout à l'heure, sous la pression des difficultés économiques ou bien des guerres et des persécutions, donc notamment la révolution bolchevique, mais aussi l'effondrement de la Grèce d'Asie mineure en 1922, mais aussi les drames palestiniens et libanais, le christianisme orthodoxe a perdu son caractère simplement oriental. Il est devenu universel. Au total, on trouve aujourd'hui environ 200 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde. Là, je dois faire une petite parenthèse. Je parle du christianisme orthodoxe au sens strict, c'est-à-dire du christianisme oriental byzantin. Mais je ferai une petite parenthèse sur ceux qu'on appelle les orthodoxes orientaux. Je le ferai dans la deuxième partie à propos des conciles, parce qu'à une certaine époque, on a perdu, entre guillemets, la communion plénière avec des églises orientales qui aujourd'hui sont qualifiées précisément d'églises orientales orthodoxes. Par rapport à l'ensemble des orthodoxes, on peut dire que les byzantins, c'est-à-dire les orthodoxes au sens strict, représentent la face occidentale de l'Orient chrétien, si je puis dire. Byzance est finalement l'empire le plus occidental de l'ensemble de l'Orient chrétien. Première partie, repères historiques. L'histoire de l'orthodoxie offre un parcours complexe et contrasté, jalonné de crises et de renouveau, de mort et de résurrection. On ne peut cerner l'unité profonde de cette Église et ses difficultés actuelles que par une bonne appréciation de son histoire. L'époque fondatrice de l'Église orthodoxe, c'est celle du premier millénaire au cours duquel vivaient les pères de l'Église, c'est-à-dire les grands témoins de la foi chrétienne, et durant lequel, ce premier millénaire, ont eu lieu les sept grands conciles écuméniques communs aux églises d'Occident et de l'Orient byzantin. C'est les sept conciles que je rappelle dans le plan et sur lesquels on va revenir. Ces conciles sont si importants pour l'orthodoxie qu'on appelle parfois l'orthodoxie l'église des sept conciles. C'est pourquoi il faudra rappeler donc la dimension fondatrice des décisions de ces conciles qui ont défendu, je dirais pour simplifier, en un raccourci, le culte du Dieu Trinité et la pleine divino-humanité du Christ. Byzance représente la matrice historique de l'Église orthodoxe. C'est le nom, comme vous le savez, donné à l'État et à la culture de l'Empire romain d'Orient au Moyen-Âge. À la fois l'État et les habitants de Byzance s'appelaient eux-mêmes Romains, de même que la plupart de leurs voisins occidentaux. Les Européens occidentaux, qui avaient leur propre empire, les ont appelés les Grecs, et plus tard les Byzantins, à la suite du savant français Ducange au XVIIe siècle, au début des études byzantines modernes. C'était la continuation de l'État romain, et jusqu'au VIIe siècle, y furent maintenues les structures de la civilisation romaine tardive, une civilisation urbaine édifiée autour de grandes cités à population multiethnique. Après la conquête arabe, Byzance est devenue un empire plus grec. Du 7e au 9e siècle, on constate une période de stagnation culturelle marquée par la querelle des images. Sous la dynastie macédonienne, c'est-à-dire du 9e au 11e siècle, le pouvoir politique byzantin atteint son apogée. C'est à cette époque que l'orthodoxie et la culture byzantine sont diffusées auprès des voisins slaves, notamment en Ukraine actuelle, qui s'appelait à l'époque la Rousse, c'est-à-dire littéralement la petite Russie. Et vous aviez plus tard la Grande Russie, c'est-à-dire la Russie de Moscovie. Une période de stabilité va du XIe au XIIIe siècle, et c'est celle de la dynastie des Komnènes, mais qui voit face au danger turc la féodalisation progressive de la société byzantine. Et cela explique en partie le drame de 1204 avec la quatrième croisade qui prend Constantinople et qui voit une occupation latine pendant une cinquantaine d'années. La cité sera reprise par les Byzantins, mais l'Empire est malade et il ne survivra que deux siècles. Étrangement, cette période d'écroulement politique sous la dynastie des Paléologues, c'est la dernière dynastie byzantine, est l'une des plus prospères en théologie, en littérature et dans les arts. Mais les Ottomans y mettent fin brutalement le 29 mai 1453. En 1453, Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, est prise par le sultan Mehmed II et la Grèce peu à peu conquise. Pendant 1000 ans, les orthodoxes avaient considéré Constantinople comme la ville protégée de Dieu, une sorte de Jérusalem chrétienne. Sa chute transforme cette gloire en une épreuve de 4 siècles, dont les conséquences demeurent toujours vives, en marquant l'orthodoxie d'un caractère tragique. Du 15e au début du 19e siècle, tous les pays chrétiens des Balkans et d'Asie mineure resteront englobés dans l'Empire ottoman, un empire musulman, et c'est l'Église qui sauvera la langue et la culture de ces nations chrétiennes, notamment par des écoles secrètes tenues par des moines. Et c'est pourquoi, pour les orthodoxes des Balkans, la nation et l'Église sont quasiment inséparables. Parce qu'on peut le souligner, c'est l'Église qui a maintenu la flamme, l'identité, si vous voulez, de ces différentes nations, que ce soit la Grèce, la Serbie, la Bulgarie, etc. On observe un renouveau doctrinal et patristique à partir du XVIIe siècle, au sein même de l'Empire ottoman, parmi les chrétiens, et ce renouveau doctrinal se doublera bientôt d'un réveil spirituel. C'est ainsi qu'à la fin du XVIIIe siècle, sous l'impulsion de l'évêque Macaire et d'un moine qui s'appelle Nicodème l'Agiorite, l'Agiorite, ce n'est pas son nom de famille, mais c'est un surnom, il veut dire le moine de la Sainte Montagne. Et la Sainte Montagne dont il s'agit, c'est le mont Athos, c'est le nom traditionnel du mont Athos. Donc, sous l'impulsion de ce moine et d'un évêque retraité qui s'appelle Macaire, est publiée une grande anthologie de textes mystiques et ascétiques, la Philokalie, qui signifie littéralement l'amour de la beauté. Elle est publiée en 1782 à Venise. Et cette anthologie verra le développement d'une véritable paternité charismatique. Ce renouveau mystique a cheminé du mont Athos vers la Grèce et également vers la Moldavie, l'Ukraine et la Russie. Et cela durant tout le 19e siècle. Et cela influera petit à petit sur un véritable renouveau spirituel et intellectuel parmi l'intelligentsia russe, notamment des gens comme Dostoïevski, influencés par les spirituels des monastères comme le monastère d'Optino. Alors la Russie a suivi donc un autre chemin que les Balkans, puisqu'elle n'a pas été asservie par l'Empire ottoman, mais elle a suivi le chemin, je dirais, de l'instrumentalisation progressive de l'Église par l'État impérial. La chute de l'Empire byzantin profitait au monde russe et en particulier à Moscou. En effet, l'évêque métropolite de Kiev, qui était la capitale russe de l'époque, et qui résidait à Vladimir, dans la ville de Vladimir, depuis le sac de Kiev par les Mongols en 1237, eh bien, ce métropolite s'était installé par la suite, au XIVe siècle, à Moscou, résidence des princes de Moscovie. Vous voyez donc un déplacement progressif vers le nord du christianisme russe. La disparition de l'Empire byzantin offre un prétexte pour l'émancipation, depuis longtemps souhaitée, de l'Église russe par rapport à sa mère, son Église mère, Constantinople. En 1448, le grand prince de Moscou désigne l'archevêque de Moscou et Kiev, et 10 ans plus tard, le synode érige le fait en droit. L'Église russe se déclare autocéphale et elle proclame donc son indépendance spirituelle. L'idée énoncée peu après vers 1505 par le moine Philothée de Pskov est la suivante, je cite: tous les empires chrétiens ont péri. Ils ont fait place à l'empire de notre seul maître, l'empire de Russie. Deux Roms ont succombé. La troisième est debout. Et il n'y en aura pas de quatrième. Fin de citation. Des moines se trouvèrent, tel Nil de la Sora, pour renier cette inféodation de l'Église. Mais c'est le camp contraire, animé par Joseph de Volokolamsk, qui fut le plus fort. En 1589, Job de Moscou, l'évêque Job, devenait patriarche de Russie avec la bénédiction du patriarche de Constantinople, Jérémie II, venu sur place pour la circonstance. Puis, à partir d'Ivan IV le Terrible, les patriarches sont de facto soumis au tsar. Il y a un film d'ailleurs qui est paru, le film Tsar, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, pardon.
Quel film ?
Je crois que c'est le film s'appelle Tsar, il me semble. Il est passé récemment et qui montre bien le conflit entre les deux instances, entre l'Église et le tsar, le tsar Ivan IV. Et donc, de facto, les patriarches vont être soumis aux différents tsars. Si bien qu'en 1721, Pierre le Grand, influencé par le modèle de l'État luthérien, protestant luthérien, va même jusqu'à supprimer le patriarcat de Moscou, remplacé par un synode entièrement soumis à l'État, à minorité épiscopale et dont les membres sont désignés par le tsar, et qui est présidé non plus par un évêque patriarche, mais par un fonctionnaire qui s'appelle le procurateur général. L'institution survit jusqu'en 1917, lorsque un grand concile de renouveau a lieu, mais comme vous le savez, 1917, c'est aussi le moment où arrive une terrible révolution, et donc, malgré cette volonté de rétablir le patriarcat par le Saint-Synode, cela n'a pas lieu, et le pays donc doit subir de 1922 à 1937 une terrible persécution jamais connue par le christianisme. Finalement, le patriarcat sera rétabli lorsque Staline aura besoin du soutien idéologique de l'Église, et ensuite donc le patriarcat survivra tant bien que mal à l'époque soviétique. Toujours est-il que ce sont des centaines d'évêques, des milliers de prêtres, de diacres et de moines qui furent mis à mort à cette époque, donc en gros entre 1922 et 1937, mais aussi des centaines de milliers de laïcs. Selon l'Institut Saint-Icône de Moscou, qui travaille sur les archives, le nombre des chrétiens orthodoxes tués en Russie pour leur foi serait compris entre 500 000 et 1 million. Ce qui est quand même considérable. Je passe maintenant à la deuxième partie, l'acquis doctrinal des sept conciles écuméniques. Alors je passe en revue, si vous voulez bien, les sept conciles, parce qu'ils sont vraiment considérés comme fondamentaux dans la doctrine de l'orthodoxie. Tout d'abord, vous avez le concile de Nicée I, donc, qui s'est réuni en 325. C'est le premier concile écuménique, qui précise contre l'hérésie d'un certain Arius, qui était prêtre à Alexandrie, que le Verbe est fils de Dieu, que représente Jésus, est incréé et divin. C'est-à-dire qu'il n'est pas une créature supérieure à travers laquelle le monde a été fait, il est vraiment fils de Dieu. Et toute la réflexion commence sur la possibilité pour Dieu d'être à la fois incréé et en même temps créature, en même temps homme. Donc c'est le mystère de la divino-humanité. Et comment concilier le fait que Dieu soit à la fois éternel et en même temps fils de Dieu? C'est donc qu'il y a un mystère, le mystère de l'unité et en même temps de la totale altérité en Dieu. C'est-à-dire que le christianisme orthodoxe confesse un parfait monothéisme, mais dire que Dieu est un ne signifie pas qu'il est seul, car il est précisément communion. Il est communion de trois personnes, c'est ce qui est révélé par le christianisme originel, communion du Père, communion de son Fils, qui est envoyé dans le monde et qui lui s'incarne et devient pleinement homme, et enfin communion de l'Esprit-Saint. Donc trois personnes révélées à travers ce mystère du Christ. Deuxième concile important, le concile de Constantinople I en 381, qui réaffirme la décision de Nicée et qui, lui, proclame la divinité du Saint-Esprit, qui était contestée par un patriarche de Constantinople, un certain Macédonius. Et donc, le concile souligne, finalement, le mystère trinitaire, le fait que Dieu est un, parce que les personnes du Fils et de l'Esprit sont issues du Père. Donc, il n'y a qu'une source en Dieu, une source éternelle, et dans cette source éternelle qu'est la personne du Père, jaillissent éternellement le Fils est engendré, et l'Esprit, et il y a un autre verbe qui est utilisé pour l'Esprit procède, entre guillemets, du Père. Et vous voyez, il y a deux verbes distincts qui sont utilisés pour le Fils et pour l'Esprit, pour souligner le mystère de l'altérité totale entre le Fils et l'Esprit. C'est-à-dire que le Fils et l'Esprit ne sont pas considérés comme des personnes jumelles, entre guillemets. Il n'y a pas de symétrie. Il y a une distinction absolue entre le Père et le Fils, mais aussi entre le Fils et l'Esprit. C'est un mystère de communion qui existe entre les trois personnes. Et c'est au Concile de Constantinople qu'est adopté le fameux symbole de foi, symbole de Nicée-Constantinople, qui est très largement commun aux chrétiens d'Orient et aussi d'Occident. C'est le credo de l'Église orthodoxe. En 431 a lieu le troisième concile écuménique, c'est le concile d'Éphèse, qui condamne l'hérésie d'un patriarche qui s'appelait Nestorius, et qui précise qu'il n'y a pas en Jésus-Christ une juxtaposition de deux personnes, une personne divine et une personne humaine. En fait, le fameux Nestorius a essayé de penser l'unité du Christ, mais il l'a fait de manière rationnelle, pour ne pas dire rationaliste, en juxtaposant en quelque sorte deux personnes. Et ce que dit le Concile, c'est que la personne est unique, et il utilise le terme philosophique d'hypostase pour souligner cette dimension personnelle. Cette personne est unique en Christ, mais cette personne est en deux natures, la nature divine et la nature humaine qui a été assumée par lui. Et en tant que nature humaine assumée, il s'agit de l'homme Jésus, Jésus de Nazareth. C'est à cette époque que, par suite d'un malentendu théologique, une famille d'églises orientales quitte la communion des églises byzantines et romaines. Il s'agit de la grande église qu'on appelait l'église d'Orient, au sens technique du terme, de l'église aujourd'hui appelée église apostolique assyrienne. C'est l'église chrétienne qui se trouvait dans l'Empire perse et qui rayonnait bien au-delà, qui allait jusqu'en Inde. Elle avait été fondée au 1er siècle, selon la tradition, par l'apôtre Thomas. Donc il s'agit en Inde de l'église dite Syro-Malabar. Une partie de cette église, d'ailleurs, a été catholicisée à partir du XVIe siècle par les Portugais. C'est l'église dite des Chaldéens. Aujourd'hui, cette église, malheureusement, est en pleine déconfiture à cause des différentes guerres du Golfe, de l'écroulement de l'Irak. Et donc, la plupart de ces chrétiens ont fui en Occident jusqu'en Amérique. Quatrième concile écuménique, le concile de Chalcédoine, en 451, qui affirme cette fois contre une autre hérésie, celle des monophysites, l'existence en Jésus-Christ de deux natures. C'est-à-dire que le Christ n'a pas une seule nature qui serait une nature dite divino-humaine, l'humanité ayant été en quelque sorte absorbée par sa divinité, mais le concile souligne que le Christ, c'est une personne en deux natures distinctes. Le Christ est donc pleinement homme, pleinement Dieu, dit le texte du Concile, ces deux natures étant unies de façon antinomique. Et ici, le texte du Concile utilise quatre adverbes négatifs pour souligner l'aspect indicible de ce mystère de l'union du divin et de l'humain. Donc il dit que les deux natures sont en Christ, unis, sans mélange, sans changement. Donc ça, c'est contre la confusion du monophysisme. Mais également, sans division et sans séparation, et là, c'est une réaction donc, à la mauvaise compréhension du nestorianisme qui avait déjà été dénoncé au Concile d'Éphèse. Pour des raisons en partie politiques et culturelles, de nombreuses églises orientales, non hellénophones, au cours du Concile de Chalcédoine, vont quitter, là encore, la communion des églises romaines et byzantines. Il s'agit des églises coptes, éthiopiennes, syro-jacobites et arméniennes. Et en plus, les églises, enfin l'église syro-malankar, qui se trouve en Inde aujourd'hui et qui était en communion avec l'église syro-jacobite. Donc toutes ces églises se séparent du tronc commun et sont ce qu'on appelle aujourd'hui les églises, on les appelait les églises monophysites.